Chers frères et sœurs et chers amis, nous y arrivons à l'étude numéro 10 concernant le salut. Oui, l'espoir pour les gens qui retournent la casquette, qui veut dire les rétrogrades. Il y a donc de l'espoir pour eux. Il est dit dans Jérémie, au chapitre 3, versets 22 et 23, « Revenez, enfants rebelles, et je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel notre Dieu. » Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. Oui, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que se trouve le salut d'Israël. Jérémie, chapitre 3, verset 22. Il est certain que le péché causera le chagrin, et plus le chagrin retarde, plus c'est triste lorsqu'il arrive. Ce bateau, il peut être en pleine mer, et cela pendant longtemps, mais il retournera enfin avec une cargaison terrible. Il n'y avait jamais d'homme qui violait la loi de Dieu sans enfin un jour le regretter amèrement. Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 8. Cela est un des mots de Salomon. Et bien sûr, c'est vrai. Combien de gens dans ce monde portent un fardeau de tristesse, lequel est le résultat de leur propre sottise et inquiétude, sans compter les iniquités. Ils porteront, à cause de leur péché, tout ce mal, cette tristesse en eux. Du reste, il y a aussi une tristesse pieuse qui vient après avoir commis le péché, et du reste, qui n'est pas à cause du péché seulement, mais qui arrive par l'amour de Dieu et par le mouvement de l'Esprit de Dieu sur le cœur, l'âme et l'esprit de l'homme. Lorsque Dieu décide qu'il sauvera quelqu'un, il commence en général par lui faire regretter ses mauvais actes. C'est, si vous voulez, l'aiguille d'acier de la loi qui, elle, pénètre le cœur et condamne et qui tire le fil en soi de la consolation et du salut. Dieu ne punit pas les hommes jusqu'à ce qu'ils soient vraiment morts. Non, non, non. Je veux dire que spirituellement, il faut qu'ils soient d'abord morts par la loi, avant qu'il soit ressuscité par l'Évangile. Ce n'est pas la façon de Dieu, la façon à lui de guérir le cœur qui est blessé, ni de fournir des vêtements pour ceux qui sont déjà habillés. Il nous faut donc le cœur brisé et nous-mêmes nus. Avant que le baume guérissant peut être appliqué et la robe de vertu nous soit donnée. Je comprends que mes paroles à ce sujet ne toucheront pas ceux qui ne connaissent pas le mal du péché, qu'ils désirent de l'ignorer. Les bonnes nouvelles de l'Évangile ne toucheront doucement, oui, tendrement, que les gens qui ont senti la colère du Seigneur dans leur esprit. Si quelques-uns parmi vous souffrent à cause du fardeau du péché, comme en son temps j'ai souffert moi-même, si quelques-uns sont écrasés comme moi-même il y a fort longtemps, ils seront heureux d'entendre la promesse de Dieu de la grâce et la manière dans laquelle elle peut être acceptée. L'autre jour, j'ai lu dans le journal une histoire. C'est un petit livre qui s'appelle Reader Digest. Une histoire qui certainement ne m'étonne même pas. Sans doute cela est une histoire de la patience merveilleuse d'une femme aimante. Quelle merveilleuse femme! Je n'ai jamais entendu une telle histoire et je pense que personne n'a surpassé son acte. Écoutez bien. Le misérable dont je parle doit être l'homme le plus mesquin du monde et la femme doit être une des plus merveilleuses femmes qui vit dans ce monde. Selon le journal, l'homme n'était pas longtemps marié, mais il ne prospérait pas dans sa profession, parce qu'il croyait qu'il était très doué et talentueux. Il est parti à Londres, et, heureusement pour lui, avec la permission de sa femme aimante, afin de réussir dans sa profession. Mais il en a trop abusé, car en effet, il a réussi et il est même devenu un portraitiste très très connu, on peut dire un membre du beau monde, et il vivait comme un coq en pâte. Il dit à sa femme, la seule fois qu'il lui écrivit, il lui a écrit qu'il pourrait plutôt être très embarrassé, ennuyé, si elle venait vivre à Londres avec lui, dont il n'y tenait vraiment pas, pas du tout. En effet, sauf pour cette fois unique, il ne communiqua pas avec sa femme et il ne lui envoya pas même un sou. Cette situation durait pendant, écoutez bien cela, pendant 40 ans. Et sa femme lui restait fidèle. Elle lui est restée fidèle, malgré le chagrin de sa conduite cruelle. Évidemment, vous allez penser qu'elle était folle. Éventuellement, il gaspilla tout son argent et se réduisit à la misère. De plus, il fut plein de maladies. Néanmoins, il fut assez bas et lâche pour ramper chez sa femme, qu'il avait pourtant négligée pendant toutes ces années, et quoique cela semble incroyable, elle l'accueillit avec tout son cœur. Elle le mit dans sa propre chambre à coucher. Elle le nourrit, elle le soigna avec amour et elle resta des heures à côté de son lit jusqu'à ce qu'il est mort. Pour sa part, je vous le demande, n'était-elle pas merveilleuse? Quelle sorte de monument devrait-on élever à une telle femme? Mais en effet, je vous raconte cette histoire simplement pour dire que ce pardon par cette femme envers son mari indigne, n'est qu'un tableau faible du grand amour de Dieu vers les hommes et les femmes, tels que ce mari indigne. Il les nourrit, Dieu les nourrit, et il répond à tous leurs besoins. Je connais plusieurs personnes qui n'ont pas communiqué avec leur Dieu pendant 40 ans. Ai-je dit 40 ans? Il y en a que c'est 50, 60, ou peut-être même plus que ça. Ils ont vécu comme s'il n'y avait absolument pas de Dieu. Et ils ont employé son saint nom seulement comme blasphème. Oui, pour blasphémer. Ils se sont moqués des choses saintes. Ils ont incité le Seigneur à la jalousie, et néanmoins même à ce moment, bien qu'il soit décrépit et vieux, ils sont non seulement malades, mais aussi pleins de remords s'ils sont abattus et sans espoir s'ils rampent à la porte de Dieu. Alors s'ils le font avec humilité et sincérité, eh bien le Seigneur, il dira « Entrez, entre et soyez le bienvenu, car Dieu n'a jamais refusé de recevoir une âme qui reviendrait par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. » Et Jésus-Christ lui-même a dit « Celui qui vient à moi, je ne le refuserai jamais. » Combien de vieux pécheurs sont venus à Christ même à l'âge de 80 ans et il n'a jamais dit un mot au sujet de ces mauvais 80 ans, mais il a dit à chacun « Entrez, entrez, car je suis, oui, je suis pour vous, tendre la main, je suis mort à la croix et j'ai versé mon sang précieux pour vous racheter, oui, pour vous. Alors entrez et soyez le bienvenu. » Beaucoup, beaucoup de péchés du genre les plus aggravants ont été commis, néanmoins ceux qui les ont commis ont été librement pardonnés. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit à Saul de Tarse? Il a dit « Je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Cependant, ayant demandé « Pourquoi me persécutes-tu ?» il ne lui dit rien comme réprimande ou comme reproche. Mais il effaça son péché et en plus, il le compta digne en le plaçant dans le ministère, tandis que cet homme pourrait dire « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens, de leur annoncer les richesses incommensurables de Jésus-Christ. J'espère de tout mon cœur que la grâce infinie et la patience de Dieu peuvent être confirmées pour quelques-uns auxquels je parle maintenant qui ne sont pas encore tournés vers Dieu. Priez, mes chers amis chrétiens, que cela peut être vrai. À propos de ce sujet, je remarquerai deux choses. Premièrement, c'est l'appel de Dieu qui dit « Revenez, enfants rebelles, et je pardonnerai vos infidélités. » Le deuxième, c'est le moyen d'obéir à l'appel. Cela est manifesté dans les mots, dans les paroles qui disent « Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. » Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est qu'un mensonge. Oui, c'est en l'Éternel notre Dieu que se trouve le salut d'Israël. Pour commencer, voici l'appel de Dieu, « Revenez, enfants rebelles, et je pardonnerai vos infidélités. » Vous remarquez que c'est un appel de revenir à Dieu, et cela veut dire d'abord vous souvenez-vous de lui? Commencez à penser à lui. Permettez-lui d'être un Dieu vivant pour vous. Dieu est le facteur le plus grand de l'univers. Il fait tout. Il est la grande unité sans laquelle tous les autres chiffres ne seraient que des zéros. Il vous a créé et il vous a aidé. Vous dépendez de lui jour après jour. Bientôt, votre esprit doit retourner à Dieu, n'oubliez jamais cela, et vous devez paraître devant son tribunal. Alors, pourquoi oubliez-vous Dieu? Pourquoi oubliez-vous le grand éternel? Vous dites qu'il n'y a pas de Dieu, mais votre conduite peut être assez compatible avec cette déclaration qui dit « Bien que je suis sûr que vous savez que vous ne devez pas penser comme ça, mais s'il y a un Dieu et vous le croyez, alors commencez à lui rendre justice. » Je veux dire que parce qu'il est le plus grand dans l'univers, donnez-lui vos pensées les plus grandes et les plus élevées. Et parce qu'il est celui qui est le plus digne d'être respecté, alors donnez-lui votre considération la plus pieuse et la plus sincère. Je pense que je ne vous demande pas trop. Certainement, si vous vous repentez de votre péché et si vous voulez que le Seigneur vous pardonne, la première chose qu'il vous faut, c'est d'obéir l'ancien commandement qui dit « Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Je sais que quelquefois vous vous troublez à cause de votre péché. Ça va, et cela vous fera du bien d'être troublé si vous retournez au Seigneur contre lequel vous avez péché. Si vous avez froissé quelqu'un, alors allez et confessez votre péché et vous vous réconciliez avec lui. Peut-être vous dites que vous n'aimez pas cette personne et vous ne voulez pas l'approcher. Mais naturellement, cela démontre qu'il vous faut le faire. Votre aversion est arrivée à deux causes. Premièrement, parce que vous avez tort, et deuxièmement, parce que vous ne connaissez pas la personne froissée. Alors, si vous admettez et confessez ces deux choses, et si vous faites la réconciliation, puis vous trouverez combien, oui, combien c'est merveilleux d'être en paix avec Dieu. Surtout, vous vous réjouirez envers Dieu de tout ce qu'il a fait pour vous. Alors, commencez à penser à Dieu. Commencez à penser à lui pour ce qu'il veut, ce qu'il veut vous dire lorsque il vous dit « Revenez, reviens, mon enfant rebelle. N'ayez pas peur. Je comprends que vous trouveriez abominable le symbole que j'ai employé dans cette étude, avoir de telles hontes. Cela est plus fort que moi. Depuis que Dieu employa ce symbole, ça va pour moi, et je suis sûr qu'il y a dedans, là-dedans, une signification, on peut dire, instructive. Il me faut revenir, revenir encore à cette image. Il y avait, chers amis, une femme. Ça aussi, c'était dans le Reader Digest. Il y avait là une femme qui a offensé atrocement son mari. Elle est partie. Elle l'a quitté. Et elle s'est plongée dans toutes sortes de péchés et évidemment également certains péchés qui ont affaire avec le vice. Alors imaginez qu'il arriverait le mot retourner, reviens. Il comprend tout ce mot-là. Il comprend tout ce qu'il faut et il s'en afflige. Néanmoins, il dit retournez, reviens mon enfant. Et elle dit, j'ai tout dépensé. Je suis maintenant en haillons. Je n'ai qu'un misérable logement, sale. Ceux qui une fois me flattaient et qui vivaient au crochet avec moi et qui ont profité de moi, eh bien, ils m'ont maintenant abandonné. Je suis donc une pauvre malheureuse rejetée que même une maison pour pauvres a refusé de m'accepter. Et puis voilà le mari qui lui écrit. Il lui écrit et dit « Reviens, reviens chez moi. » Et tout sera pardonné, n'importe quoi sera pardonné. Et ce que vous ne l'imaginez pas, combien elle serait heureuse, même si elle s'appelait Marlise, Sabine ou Monique. Si aucune chose de plus de valeur lui reste, eh bien, elle se dépêche. Et comment pour accepter l'invitation? Cependant, et on le comprend, elle est très très timide et elle a une grande peur. Oh, que son visage est couvert de rougeur de la honte, les larmes versées et les joues ridées, c'est à peine qu'elle peut croire, elle ne croit presque pas qu'un tel amour merveilleux serait donné à une femme tellement peu méritante qu'elle-même. Peut-être elle s'inquiète. Justement, elle s'inquiète parce qu'il lui semble que aucun homme ne se comporterait de cette façon que son mari, personne d'autre, et qu'il aurait peut-être tort. Donc, elle reste un peu et elle considère le sujet. Cependant, c'est vrai. Son mari est unique. Peut-être il n'y a pas un autre mari aussi aimant et clément que lui. Il lui dit « Reviens, reviens, dit-il, mais confesse simplement ton péché et retourne chez moi sans aucune cérémonie. » Je pense qu'elle devrait être très méchante de ne pas vouloir rendre à un tel mari indulgent tout service et amour pour le reste de sa vie. Maintenant, cela est la manière, oui, c'est la manière dans laquelle le Seigneur, votre Sauveur, offre de vous traiter, vous. Il dit, revenez. Sachez que je ne dirai rien du passé. Non, non, non. J'efface tes transgressions comme un nuage. J'efface tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté à un grand prix. J'ai pardonné tes péchés. Je les ai fait tomber sur mon cher fils. Il est mort pour toi, et son sang précieux a emporté toute ta culpabilité. Alors reviens, reviens à moi, car je t'aime d'un amour éternel, et c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Retournez chez moi. L'Éternel dit qu'il déteste de rejeter quelqu'un. Alors je vous ai pas rejeté. Néanmoins, tout votre péché et votre méchanceté, il est maintenant effacé totalement. Voilà le message de mon amour et de ma grâce. Revenez, enfants rebelles, car je vous ai épousés, c'est ce que dit l'Éternel. La façon que donne cette image frappante, revenez à votre Dieu immédiatement, reviens, pauvre pécheur errant, et avoue tout ta méchanceté en t'étonnant que tu reçois maintenant la grâce totale. Je te l'offre, je t'offre la grâce en te confiant au Seigneur parce que le Seigneur te dit, il te dit toujours la vérité. Alors, promettez-lui, chers amis, de vivre et de mourir pour lui être un fidèle serviteur, une fidèle servante, autant que son bien-aimé. Voilà donc la façon pour revenir à Dieu, dont je vous en prie de lui revenir le plus vite possible. Il y a un mot dans cet appel de Dieu qui prouve que vous êtes invité à revenir justement vous-même et sans aucun problème. Il dit « Revenez-vous, enfants rebelles ». Alors, chers amis, je remarque une chose, qu'il ne dit pas « Revenez-vous, enfants pénitents ». Non, non, il dit pas ça. Il vous imagine aussi méchant que possible, mais néanmoins, il dit « Revenez-vous, enfants rebelles ». Je répète, il ne vous dit pas « Revenez-vous, qui êtes des enfants pénitents ». Non, il dit « Revenez-vous, qui êtes des enfants rebelles ». Et je remarque aussi qu'il ne dit pas d'abord « guérissez vos blessures et revenez ensuite », ce qui aurait été possible. Mais il dit « revenez, vous, enfants rebelles, avec toutes vos rébellions telles que vous êtes, et je pardonnerai vos infidélités ». Beaucoup de pécheurs imaginent qu'il leur faut se guérir totalement, être propre, nickel, avant de venir à Christ. Ça, c'est une idée assez indigne et tout à fait sans fondation. Venez, dit-il, comme vous êtes. Sans aucune honte, tel que tu es, venez à Christ pour tout recevoir de lui. Mais tous ceux qui le désirent, qui désirent être sauvés, ils ou elles doivent croire à Jésus-Christ, c'est la moindre des choses, et ils doivent se repentir de leurs péchés. Donc, venez à lui avec rien, et il remplira les lacunes. Venez, tout vide que vous êtes, déguenillé que vous êtes, peut-être même un peu sale, et croyez en Dieu qui justifie l'impie. Jetez-vous donc dans ses bras, car il n'est pas venu appeler à la repentance des justes ou des propres justes, mais il est venu et il a donné sa vie pour racheter des pécheurs. Inclinez-vous donc simplement avec humilité et avec repentance. Inclinez-vous devant lui qui fait briller les éclairs du Sinaï et qui enflamme les rayons plus doux et plus chauds du calvaire pour guider chaque pécheur humble et repentant dans le port de paix, le port d'amour éternel. Donc, je vous ai démontré l'appel de Dieu, revenez enfants rebelles, et je pardonnerai vos infidélités. Deuxièmement, je veux vous montrer la méthode d'obéir à cet appel. Il y a deux choses dans le texte qui sont en particulier remarquables. Premièrement, Celui qui désire revenir à Dieu et trouver le salut doit distinctement abandonner toutes les autres philosophies et croyances, à part de celle qui est donnée par Dieu lui-même et qu'il montre dans le Saint-Évangile. Écoutez le bruit qui vient des collines et des montagnes, mais c'est en l'Éternel seul que se trouve le salut d'Israël. Tout le reste n'est que mensonge. Juda était un pays vallonné et partout où il y avait la cime d'une montagne ou le sommet d'une colline, eh bien, on y trouvait un temple d'idolâtrie. Et partout où il y avait un bosquet de chênes, on trouverait un sanctuaire idolâtre. Lorsque les gens traversaient les vallées, ils levaient les yeux à ces sanctuaires, donc leur confiance était aux collines et à la multitude de montagnes. Ils avaient des dieux partout, des blocs de bois et même des sculptures en pierre. Donc le Seigneur leur dit, « Si je vous reçois encore une fois, mais ce sera la dernière, il vous faut renoncer à toute cette idolâtrie. » La signification spirituelle de ce passage est comme cela. Si vous voulez être sauvé par la grâce de Dieu, il vous faut solennellement, formellement et sincèrement renoncer à toute confiance à quelqu'un, par exemple un gourou, ou ça peut même être un monseigneur frelon, donc sauf au Dieu vivant, sauf à lui, ne renoncez surtout pas à lui, et renoncez jamais à son Fils bien-aimé Jésus-Christ, mais renoncez à tout le reste. D'abord, il faut une réconciliation distincte de toute vertu de votre part. Vous pensez être sans force et sans faute et que vous n'avez jamais fait de mal. Eh bien, mon cher ami, même si vous avez l'air de n'avoir jamais fait de mal d'après vous, ou pensez mal dans votre cœur, il n'y a pas de salut pour vous comme cela. Vous devez vous reconnaître souillé et perdu, autrement, il n'y a pas d'espoir pour vous. L'homme qui reste fidèle à sa propre vertu est comme celui qui empoigne une meule, assez lourde si possible, pour se sauver dans la mer. Ça va mal se passer. Votre vertu vous condamnera, surtout si vous y confiez totalement. Si vous vous confiez dans votre vertu, eh bien, vous risquez d'être perdu. Sûrement que vous êtes sans péché, c'est ce que vous pensez. Car cela est hélas un mensonge. Ça, c'est de l'orgueil et sans aucune vérité. Et il ne faut surtout pas se fier dans ces choses-là. Il n'y a pas un seul homme parmi nous qui se trouve sans péché et qui recevra l'approbation de Dieu. Et au fond, chers amis, nous savons très bien, nous savons cela. Enfin, faites table rase de ce mensonge une fois pour toutes. Et lorsque je suis venu à Christ, il y a fort longtemps, cela ne m'a troublé pas du tout. Non, cela ne m'a pas troublé, car je n'avais pas de vertu moi-même. Pas du tout. Aucune vertu à laquelle je pouvais me confier. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans les mêmes circonstances que les miennes. Je ne me confie à rien et à part dans le sang précieux versé qui est et représente la vertu de Jésus-Christ, mon Sauveur et Seigneur. Et de plus, je ne désire pas et je n'aurai aucune autre confiance et je suis sûr, mes bien-aimés, qu'il vous faut fonder sur le même fondement. Autrement, Christ, il ne vous sauvera jamais. Il vous faut renoncer entièrement et avoir aucune confiance à votre propre vertu. La prochaine chose qu'il vous faut renoncer, eh bien, c'est en votre propre force. Voyez-vous, il y a beaucoup de jeunes gens qui se mêlent de l'impureté et de l'ivresse, et des amis les ont parfois prévenus du mal de leur conduite. Et ils ont répondu « Oui, 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 je sais tout cela. Mais tout ira bien, ne vous en faites pas, à partir de 30 ans. Et là, j'arrêterai toutes ces choses qui sont équivoques. » Eh bien, ils disent même « J'éviterai le mal pour le reste de ma vie et j'irai bien, je le sais très bien. » Eh bien, je ne dirai pas « Alléluia ». J'ai l'esprit fort, pense-t-il, et je suis toujours maître de moi, pense-t-il également. Eh bien, pardon, mes chers amis, pardon, mais j'aimerais vous dire très doucement et avec beaucoup de politesse que vous êtes insensés, pardonnez-moi de vous le dire, car vous risquez d'être totalement perdus, car je lis en ce qui concerne ceux qui sont sauvés, qu'il est dit ceci. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Donc, les gens pour lesquels il est mort étaient sans force. Et je vous assure, mes chers amis, vous ne réussirez pas par vos propres forces. J'ai vu beaucoup de jeunes gens avec de hauts principes qui se confiaient à eux-mêmes, mais où sont les hauts principes lorsque les jolies lèvres et le visage souriant d'une jeune fille les ont séduits? Et où sont les hauts principes lorsque ces gens ont bu ce dernier verre de vodka qui a troublé leur équilibre et qui les a fait dire des choses inconcevables? Abandonnez, chers amis, toute confiance à votre propre justice, à votre propre force, autant qu'à votre propre vertu. Ajouter à tout cela, eh bien, doit aller toute votre confiance. Oui, elle doit aller à vous avec la connaissance et la capacité et même à votre propre compréhension. Ça devrait devenir clair qu'il n'y a que deux possibilités. Néanmoins, Voilà la ruine de beaucoup de gens, c'est qu'ils savent tellement de choses. Et comme le paresseux, ils sont plus sages à leurs propres yeux que cet homme qui répondent avec le bon sens. Voyez comment il traite la Bible. Il la traite assez mal et avec dédain. Lorsque il l'ouvre, ce n'est pas du tout pour entendre ce que Dieu dit ou ce qu'il leur dit de la parole de Dieu. Mais, croyez-le ou pas, c'est pour dire à Dieu ce que Dieu devrait leur dire et devrait faire pour eux. Lorsque ils daignent écouter l'Évangile, ce n'est pas pour entendre l'Évangile, mais c'est pour voir comment le pasteur s'y prend pour le prêcher. Il y a des émissions de radio qui étaient célèbres en Allemagne et dans tous les pays qui comprennent l'allemand, Gerade du brauchst Jesus. Gerade du brauchst Jesus. Et il y en a beaucoup, des imbus d'eux-mêmes, même très religieux, qui se sont moqués de ces émissions. Je ne voudrais pas être à leur place un jour. Pas du tout. Est-ce qu'il est un orateur éloquent? Ils ont trouvé que celui qui disait « Gerade du brauchst Jesus » seulement toi, maintenant, tu as besoin de Jésus. Ils s'en sont moqués. Et ils ont épluché ses prêches. Ils ont dit, est-ce qu'il emploie des mots éloquents, cet imbécile? Cela est tout ce que beaucoup de gens veulent écouter, des mots éloquents. Messieurs, mesdames, si je pouvais employer de grands mots, je détesterais de les employer pour éviter de gâcher vos âmes. Comme dit l'apôtre Paul, donc je dis, sans la sagesse du divin langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, si je pouvais vous enlever au ciel maintenant, en employant les mots les plus ordinaires, je préférerais faire cela plutôt que d'empêcher que vous puissiez obtenir le salut en étant avide de démontrer les subtilités de la langue et les beautés du style. Voyez-vous, il y a ceux qui se croient tellement sages et intelligents qu'il discutaillerait même avec l'archange Gabriel ou avec l'archange Michel. Salomon, oui, même le grand Salomon, n'a jamais prétendu qu'il savait tout. Mais ces hommes croyants d'aujourd'hui, même un peu croyants parce que ce sont des pseudo-chrétiens, ils croient qu'ils savent tout. Ils savent tout selon leurs propres idées et ils savent non seulement tout, mais encore un peu plus que tous les autres. Eh bien, si jamais nous avons besoin de quelqu'un pour régler la nation, je m'engage à trouver 50 premiers ministres aussi sages selon eux-mêmes. Il faut ajouter que ces gens sont si petits et si bêtes lorsque on les pèse dans la balance du sanctuaire et dans la balance infaillible que Dieu tient à la main. Écoutez ça, vous qui croyez tous savoir, à moins que vous soyez convertis, nés de nouveau, et que vous deveniez comme des petits-enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. C'est pas moi qui le dis. Celui qui veut devenir un enfant de Dieu doit devenir comme un petit enfant. Et cela, pour être sauvé, il nous faut non seulement jeter notre méchanceté et notre orgueil en bas, aux pieds de Jésus-Christ, mais il nous faut aussi déposer notre raisonnement vantard, nos vantardises, notre fierté, notre orgueil, aux pieds de Jésus-Christ. Et il nous faut demander que nous serons en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et satisfaction et rédemption. Enfin, mes chers amis, comment dites-vous? Êtes-vous prêts à renoncer à vos propres idées et de les soumettre à Dieu et croire simplement à ce qu'il vous dit dans sa sainte parole? Êtes-vous prêts aussi à renoncer à votre suffisance? Nous sommes maîtres de nous-mêmes, disons-nous, et nous pouvons faire comme nous voulons. Les langues sont à nous, nous pouvons dire ce que nous voulons. Nous sommes de libres penseurs et de libres viveurs. Permettez-moi de vous dire que si vous êtes sauvés par Christ, vous trouverez la seule liberté que vous pouvez jamais en jouir en Jésus-Christ. Mais il faut pour cela d'abord un abandon entier à votre Dieu. Venez maintenant. Qui va régner? Est-ce que c'est sa volonté ou la vôtre? C'est son chemin ou votre chemin? Si c'est votre chemin, cela sera votre ruine. Mais s'il est le chemin de Dieu, cela sera votre salut. Lorsque les Romains ont attaqué une cité et que le peuple devait leur céder, se rendre, ils ont rédigé, par habitude, la déclaration suivante. En suppliant la grâce des autorités romaines, nous qui avons été battus, eh bien, nous cédons nous-mêmes, nous cédons nos maisons, nous cédons nos biens, nous cédons nos corps, nos âmes, tout ce qui nous appartient pour l'emploi de l'autorité romaine comme elle le veut. Et cela fut exprimé d'une telle façon qu'on ne pouvait pas en échapper. Et il ne permit pas de stipulations ni de conditions. Et puis aussitôt que l'on avait signé, eh bien, le conquérant romain, avec une soi-disant générosité de sa puissance, disait simplement, eh bien maintenant, vous êtes libre. Oui, car vous avez tout renoncé, vous avez cédé à tout, eh bien maintenant, vous êtes libre. Eh bien, chers amis, Dieu, il demande exactement ce genre de soumission. Si vous voulez le pardon, il vous faut vous soumettre entièrement, corps, âme, esprit, argent, cœur, intelligence, absolument tout. Et ceci pour appartenir entièrement à Christ et ainsi désormais à être sauvés pour l'éternité. Si vous voulez le salut, il vous faut vous soumettre et alors ça arrive tout de suite. Où est-ce que vous voulez garder vos péchés et entrer à l'enfer? Ou voulez-vous abandonner vos péchés et entrer le paradis? C'est le libre choix. Que préférez-vous, le péché ou le sauveur? Lequel? Que le Saint-Esprit vous amène à la décision juste et immédiatement avant que cela devienne trop tard. Finalement, il est évident, selon le texte biblique, qu'il faut aussi une admission vigoureuse et véritable de Dieu seul, et ceci pour notre espoir unique. Lisez le passage encore une fois. Oui, nous voici, nous allons à toi Seigneur, car tu es l'Éternel notre Dieu. Oui, c'est en l'Éternel notre Dieu que se trouve le salut d'Israël. Il n'y a qu'un vrai Dieu vivant. Les hommes ont fait presque autant de dieux qu'il y a des sables sur la plage. Cependant, il n'y a qu'un seul Dieu, dont le nom est Jéhovah, Yahvé, l'Éternel, El Shaddai, Elohim, le Créateur de tous, dans lequel nous vivons et nous marchons et nous sommes vivants. Voulez-vous prendre, accepter ce Dieu pour être votre Dieu? Voulez-vous dire « Ce Dieu est mon Dieu à jamais, il nous conseillera même jusqu'à la mort. » Voulez-vous le prendre comme le vôtre? Et surtout, ne le regardez pas comme le Dieu seulement de quelqu'un d'autre, non, non, mais désormais comme étant votre Dieu que vous aimez, que vous embrassez, en ne le comprendre, et de le comprendre pas seulement intellectuellement, non, mais de l'adorer avec amour, avec sincérité, de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. Voulez-vous prendre Dieu pour devenir votre Dieu à vous, et est-ce qu'il sera vraiment le vôtre? Remarquez que le texte dit « Vraiment, notre Dieu est le salut d'Israël. » Il ne faut pas faire cette acceptation de Dieu à la légère, car c'est notre unique espoir. Il ne faut pas nous moquer de Dieu en feignant, oui, de feindre que nous l'acceptons. Jouer du théâtre. Non, il faut une véritable acceptation de Dieu comme notre Dieu et désormais jusqu'au-delà de notre vie terrestre. Seulement le Dieu de la Bible peut être accepté comme le vôtre, pas un autre Dieu ni un autre Christ. Personne ne peut servir deux maîtres. Ni une femme peut aimer deux maris. Si vous voulez le salut, il vous faut, par un acte délibéré, vous donner vous-même à Christ et prendre son salut entier pour être le vôtre. Pour vous aider à faire ça, permettez-moi de vous rappeler qu'il y a une trinité bénie en cette unité. Il y a tout d'abord le Père, toujours béni. Que dites-vous? vous voulez ce père pour être votre père? Vous avez péché contre lui. Voulez-vous solliciter son pardon pour l'amour de Christ, son Fils bien-aimé? Voulez-vous demander le droit d'entrer dans sa maison par la porte tachée de sang qu'il a versé à la croix, tachée de sang du sacrifice racheté de son Fils Jésus-Christ? Voulez-vous l'honorer comme votre Père? Est-ce que chacun de vous va lui dire à l'instant même, dites-lui, mon Père, tu es le conseiller de ma vie. Je vous pose une question sérieuse, très sérieuse. C'est pas quelque chose à la légère. Chers amis, la prochaine personne bénie et adorable de la Trinité unie, c'est qui? C'est le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Voulez-vous ce Fils de Dieu comme votre Sauveur et Seigneur? Car il est mort pour que les pécheurs puissent vivre. Voulez-vous que sa mort soit votre vie? Il a versé son sang précieux pour nettoyer les coupables de chaque tache du péché. Voulez-vous être purifié dans le torrent rouge par son sang qu'il a versé pour nous à la croix? Est-ce que Christ sera votre Seigneur? Voulez-vous vous asseoir à ses pieds et l'entendre? Christ sera-t-il votre Seigneur? Voulez-vous vous confier à lui pour présenter son sacrifice pour vous et pour intercéder en faveur de vous? Christ est roi. Voulez-vous l'accepter pour qu'il règne sur vous maintenant? Enfin, voulez-vous l'accepter en tout ce qui concerne votre vie, en tous ses rapports, en la majesté de sa divinité glorieuse et en l'humiliation de son humanité parfaite? Je vous le demande comme quelqu'un d'autrefois qui a demandé cela à la jeune fille qu'il rencontra au puits. Et acceptez donc Christ comme cette jeune fille au puits l'a accepté. L'avoir et le tenir, vaille que vaille, soit riche, soit pauvre, ainsi que la mort elle-même ne puisse vous séparer de lui. Si oui, acceptez-le et soyez le bienvenu, car il veut se donner à chacun qui est prêt à l'accepter. Il y a une troisième personne de cette unité bénie, et cela est le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes prêt à permettre au Saint-Esprit d'entrer et de demeurer dans votre être? Le voilà qui doit vous régénérer si vous êtes né encore une fois, ce qui représente le salut. Le voilà qui doit vous enseigner, et le voilà qui doit vous sanctifier, le voilà qui doit vous éclairer et guider, le voilà qui peut vous consoler et vous conseiller. Sans lui, vous pouvez rien faire. Le Saint-Esprit est la véritable vie du chrétien. Quoi que le Père décrète, quoi que le Fils vous accorde, c'est ce que le Saint-Esprit applique. Et cela, sans ce Saint-Esprit, croyez-moi, il n'y a rien pour vous. Voulez-vous obéir à ses ordres? Voulez-vous vous mettre sous sa direction? Voulez-vous abandonner votre corps pour qu'il devienne son temple? Si vous voulez faire tout ça avec l'aide de Dieu, puis croire au Seigneur Jésus-Christ, alors vous serez sauvés. Alléluia. Son propre mot est, c'est-à-dire sa propre parole, elles sont les suivantes. Celui qui croit en moi et qui est baptisé sera sauvé. Avec le cœur, âme et esprit, croyez en lui, puis permettez à votre corps d'être nettoyé à l'eau pure dans le baptême. Ces deux choses, le Seigneur Jésus-Christ vous les demande. Et encore une fois, je vous rappelle que c'est lui qui dit « Celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé ». Ne faites pas des objections à l'un ou l'autre de ces mots évangéliques. Venez tout de suite et faites ce qu'il vous demande et entrez dans la vie. Car celui qui croit en lui a la vie éternelle. Et puis, tout de suite, confiez votre foi, comme les gens qui entendirent l'apôtre Pierre au jour de la Pentecôte, quand il a dit « Ceux qui acceptent sa parole seront baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples avait augmenté d'environ 3000 âmes. Alors voyez, mes chers amis, j'ai maintenant terminé, car je ne sais pas que dire de plus. En ce cas, je le dirai, mais je vous dirai cela, comment tout cela me frappe tout de même. Ayant donc conscience de la culpabilité et soyons désireux du salut. Je pense que, après avoir entendu ce qu'on a dit aujourd'hui, il est impossible de quitter cet endroit sans refuser l'invitation évangélique délibérément. Chers amis, si vous ne le refusez pas, mais que vous l'acceptez pour l'amour de Dieu, eh bien, vous serez sauvés pour l'éternité. Et rappelez l'émission de Radio Monte Carlo, l'émission allemande, où le pasteur disait à chaque message qu'il commençait, il disait « Gerade du brauchst Jesus ». Oui, c'est droit toi maintenant qui as besoin de Jésus-Christ. Chers amis, nous allons donc terminer par la prière. Prions, si vous le voulez bien. Seigneur, nous élevons nos âmes et nos cœurs à toi, implorant ta bénédiction sur cette journée que tu nous accordes encore pour travailler à notre salut. Nous te rendons grâce pour cette protection divine qui nous a préservés depuis notre naissance jusqu'à cette heure. C'est toi qui nous as donné la vie, qui nous la conserve, qui pourvoit à tous nos besoins et qui nous pardonne nos iniquités. Mais Seigneur, qui sommes-nous pour t'adresser nos adorations et nos louanges? Tu es élevé au-dessus des cieux, et nous rampons dans la poussière. Tu subsistes de toute éternité, et nous ne sommes que depuis un jour. Tu es saint, et nous sommes misérables et pécheurs. Ô Dieu, ne nous rejette pas à cause de notre misère et de nos péchés, car tu nous as donné un sauveur par ses mérites et son sacrifice. Nous sommes réconciliés avec toi. Nous voulons rendre à ce divin sauveur l'amour et l'obéissance qui lui sont dus, qu'étant réveillés de notre sommeil spirituel et ressuscités avec lui, nous cherchons les choses qui sont en haut, oui, son royaume éternel et sa justice. Et cela pour nous affermir dans ses désirs, accompagne de ta bénédiction au neutre Dieu l'étude, le message que nous venons de faire de ta sainte parole, et puissions-nous la recevoir avec foi et y conformer toute notre vie. Aide-nous, Seigneur, aide-nous dans notre incrédulité. Exauce les prières que nous t'offrons pour nos parents et nos amis, pour notre patrie, pour les malades et pour les affligés, et pour le peuple, les peuples que tu visites par tes calamités. Oui, car ils souffrent, ils souffrent. Nous t'invoquons au nom de ton Fils bien-aimé, auquel, comme à toi, Père céleste, et au Saint-Esprit, soit donc honneur, louange et gloire. Amen. Amen.